chapitre 18, au Louvre, la révélation. Ce jour-là aussi, pour de grandes aventures, le roi sortit de son cabinet et fit appeler monsieur d'Épernon. Il pouvait être midi. Le duc s'empressa d'obéir et de passer chez le roi. Il trouva sa majesté debout dans une première chambre, considérant avec attention un moine jacobin qui rougissait et baissait les yeux sous le regard perçant du roi. Le roi prit d'Épernon à part. « Regarde donc, duc, dit-il en lui montrant le jeune homme, la drôle de figure de moine que voilà. « De quoi s'étonne votre majesté, dit d'Épernon, je trouve la figure fort ordinaire, moi. Vraiment ?» Et le roi se prit à rêver. « Comment t'appelles-tu ? Lui dit-il. « Frère Jacques, sire. Tu n'as pas d'autre nom ? Mon nom de famille, Clément. « Frère Jacques Clément, répéta le roi. « Votre majesté ne trouve-t-elle pas aussi quelque chose d'étrange dans le nom ? Fit en riant le duc. Le roi ne répondit point. « Tu as très bien fait ta commission, dit-il au moine, sans cesser de le regarder. « Quelle commission, sire ? Demanda le duc avec cette hardiesse qu'on lui reprochait et que lui donnait une familiarité de tous les jours. « Rien, dit Henri, un petit secret entre moi et quelqu'un que tu ne connais pas. « En vérité, sire, dit d'Épernon, vous regardez étrangement cet enfant et vous l'embarrassez. « C'est vrai, oui. Je ne sais pourquoi mes regards ne peuvent pas se défendre de lui. Il me semble que je l'ai déjà vu ou que je le verrai. Il m'est apparu dans un rêve, je crois. « Allons, voilà que je déraisonne. Va-t'en, petit moine, et tu as fini ta mission. On enverra la lettre demandée à celui qui la demande. Sois tranquille. « D'Épernon, sire, qu'on lui donne 10 écus. »« Merci, dit le moine. »« On dirait que tu as dit merci du bout des dents, reprit d'Épernon, qui ne comprenait point qu'un moine parût mépriser 10 écus. »« Je dis merci du bout des dents, reprit le petit Jacques, parce que j'aimerais mieux un de ces beaux couteaux d'Espagne qui sont là, appendus au mur. » « Comment, tu n'aimes pas mieux l'argent pour aller courir les farceurs de la foire Saint-Laurent ou les clapiers de la rue Sainte-Marguerite ?» demanda d'Épernon. « Je fais vœu de pauvreté et de chasteté, » répliqua le moine. « Donne-lui donc une de ces lames d'Espagne et qu'il s'en aille, la valette, » dit le roi. Le duc, en homme parcimonieux, choisit parmi les couteaux celui qui lui paraissait le moins riche et le donna au petit moine. C'était un couteau catalan, à lame large, effilée, solidement emmanché dans un morceau de belle corne ciselée. Jacques le prit, tout joyeux de posséder une si belle arme, et se retira. Jacques partit, le duc essaya de nouveau de questionner le roi. « Duc, interrompit le roi, as-tu parmi tes 45 2 ou 3 hommes qui sachent monter à cheval ? 12 au moins, sire, et tous seront cavaliers dans un mois. » « Choisis-en 2 de ta main, et qu'ils viennent me parler à l'instant même. » Le duc salua, sortit, et appela Loignac dans l'antichambre. Loignac parut au bout de quelques secondes. « Loignac, dit le duc, envoyez-moi à l'instant même 2 cavaliers solides, c'est pour accomplir une mission directe de sa majesté. » Loignac traversa rapidement la galerie, arriva près du bâtiment que nous nommerons désormais le logis des 45. Là, il ouvrit la porte et appela d'une voix de maître « Monsieur de Carminges, Monsieur de Biran !»« Monsieur de Biran est sorti, » dit le factionnaire. « Comment ? Sorti sans permission ?» Il étudie le quartier que Monseigneur le duc d'Épernon lui a recommandé ce matin. « Fort bien. Appelez Monsieur de Sainte-Maline, alors. » Les 2 noms retentirent sous les voûtes et les 2 élus apparurent ensemble. « Monsieur, dit Loignac, suivez-moi chez Monsieur le duc d'Épernon. » Et il les conduisit au duc, lequel, congédiant Loignac, les conduisit à son tour au roi. Sur un geste de sa majesté, le duc se retira et les 2 jeunes gens restèrent. C'était la première fois qu'ils se trouvaient devant le roi. Henri avait l'air fort imposant. L'émotion se traduisait chez eux de façon différente. Sainte-Maline avait l'œil brillant, le jarret tendu, la moustache hérissée. Carminge, pâle, mais tout aussi résolu, bien que moins fier, n'osait arrêter son regard sur Henri. « Vous êtes donc de mes 45, messieurs, dit le roi. »« J'ai cet honneur, sire, répliqua Sainte-Maline. Et vous, monsieur? J'ai cru que monsieur répondait pour nous deux, sire. Voilà pourquoi ma réponse s'est fait attendre. Mais quant à être au service de votre majesté, j'y suis autant que qui que ce soit au monde. Bien, vous allez monter à cheval et prendre la route de Tours. La connaissez-vous? Je demanderai, dit Sainte-Maline. Je m'orienterai, dit Carminges. Pour mieux vous guider, passez par Charenton d'abord. Oui, sire. Vous pousserez jusqu'à ce que vous rencontriez un homme voyageant seul. Votre Majesté veut-elle nous donner son signalement? Demanda Sainte-Maline. Une grande épée au côté ou au dos, de grands bras, de grandes jambes. Pouvons-nous savoir son nom, sire? Demanda Ernoton de Carminges, que l'exemple de son compagnon entraînait, malgré les habitudes de l'étiquette, à interroger le roi. Il s'appelle l'ombre, dit Henri. Nous demanderons le nom de tous les voyageurs que nous rencontrerons, sire, et nous fouillerons toutes les hôtelleries. Une fois l'homme rencontré et reconnu, vous lui remettrez cette lettre. Les deux jeunes gens tendaient la main ensemble. Le roi demeura un instant embarrassé. « Comment vous appelle-t-on » demanda-t-il à l'un d'eux. « Ernoton de Carminges, » répondit-il. « Et vous ?»« René de Sainte-Maline. » « Monsieur de Carminges, vous porterez la lettre et monsieur de Sainte-Maline la remettra. » Ernoton prit le précieux dépôt qu'il s'apprêta à serrer dans son pourpoint. Sainte-Maline arrêta son bras au moment où la lettre allait disparaître et il en baisa respectueusement le sceau. Puis il remit la lettre à Ernoton. Cette flatterie fit sourire Henri III. « Allons, allons, messieurs, dit-il, je vois que je serai bien servi. » « Est-ce tout, sire ?» demanda Ernoton. « Oui, messieurs, seulement une dernière recommandation. » Les jeunes gens s'inclinèrent et attendirent. « Cette lettre, messieurs, dit Henri, est plus précieuse que la vie d'un homme. Sur votre tête, ne la perdez pas. Remettez-la secrètement à l'ombre, qui vous en donnera un reçu, que vous me rapporterez, et surtout voyagez en gens qui voyagent pour leurs propres affaires. Allez !» Les deux jeunes gens sortirent du cabinet royal. Ernoton, comblé de joie, Sainte-Maline, gonflée de jalousie, l'un avec la flamme dans les yeux, l'autre avec un avide regard qui brûlait le pourpoint de son compagnon. Monsieur d'Épernon les attendait. Il voulut questionner. « Monsieur le duc, répondit Ernoton, le roi ne nous a point autorisés à parler. » Ils allèrent à l'instant même aux écuries, où le piqueur du roi leur délivra deux chevaux de route, vigoureux et bien équipés. Monsieur d'Épernon les eût suivis certainement pour en savoir davantage, s'il n'eût été prévenu, au moment où Carminges et de Sainte-Maline le quittaient, qu'un homme voulait lui parler à l'instant même et à tout prix. « Quel homme ?» demanda le duc avec impatience. « Le lieutenant de la prévôté de l'Île-de-France. » Hé, hey, parfandiou, s'écria-t-il, suis-je échevin, prévôt ou chevalier du guet? Non, monseigneur, mais vous êtes ami du roi, répondit une humble voix à sa gauche. Je vous en supplie à ce titre, écoutez-moi donc. Le duc se retourna. Près de lui, chapeau bas et oreille basse, était un pauvre solliciteur qui passait chaque seconde par des nuances de l'arc-en-ciel. Qui êtes-vous? Demanda brutalement le duc. Nicolas Poulain, pour vous servir, monseigneur. Et vous voulez me parler? Je demande cette grâce. Je n'ai pas le temps, même pour entendre un secret, monseigneur. J'en écoute 100 tous les jours, monsieur, et le vôtre ferait 101. Ce serait un de trop. Même si celui-là intéressait la vie de sa majesté, dit Nicolas Poulain en se penchant à l'oreille de d'Épernon. Oh, je vous écoute, venez dans mon cabinet. Nicolas Poulain essuya son front ruisselant de sueur et suivit le duc. Monsieur d'Épernon, en traversant son antichambre, s'adressa à l'un des gentilshommes qui s'y tenait à demeure. « Comment vous nommez-vous, monsieur ? » demanda-t-il à un visage inconnu. « Pertinax de Montcrabeau, monseigneur, » répondit le gentilhomme. « Eh bien, monsieur de Montcrabeau, placez-vous à ma porte et que personne n'entre. »« Oui, monsieur le duc. »« Personne, vous entendez ?»« Parfaitement. » Et M. Pertinax, qui était somptueusement vêtu et qui faisait le beau dans des bas oranges avec un pourpoint de satin bleu, obéit à l'ordre de d'Épernon. Il s'adossa en conséquence au mur et prit position, les bras croisés, le long de la tapisserie. Nicolas Poussin suivit le duc qui passa dans son cabinet. Il vit la porte s'ouvrir et se refermer, puis la portière retomber sur la porte, et il commença sérieusement à trembler. « Voyons votre conspiration, monsieur, dit sèchement le duc, mais pour Dieu qu'elle soit bonne, car j'avais aujourd'hui une multitude de choses agréables à faire, et si je perds mon temps à vous écouter, gare à vous. » Hey, « Monsieur le duc, dit Nicolas Poulain, il s'agit tout simplement du plus épouvantable des forfaits. Alors, voyons le forfait, monsieur le duc. « On veut me tuer, n'est-ce pas ?» interrompit d'Épernon en se raidissant comme un spartiate. « Eh bien, soit, ma vie est à Dieu et au roi, qu'on la prenne. Ah, il ne s'agit pas de vous, monseigneur. »« Ah, cela m'étonne. Il s'agit du roi. On veut l'enlever, monsieur le duc. »« Oh, encore cette vieille affaire d'enlèvement, » dit dédaigneusement d'Épernon. « Cette fois, la chose est sérieuse, monsieur le duc, si j'en crois les apparences. » « Et quel jour veut-on enlever sa majesté ?»« Monseigneur, la première fois que sa majesté ira à Vincennes dans sa litière. »« Comment l'enlèvera-t-on ? » ?»« En tuant les deux piqueurs. »« Et qui fera le coup ?»« Madame de Montpensier. » D'Épernon se mit à rire. « Cette pauvre duchesse, dit-il, que de choses on lui attribue !»« Moins qu'elle n'en projette, monseigneur. » »« Et elle s'occupe de cela à Soissons. » »« Madame la duchesse est à Paris. » « À Paris, je puis répondre à monseigneur. »« Vous l'avez vu ?»« Oui, c'est-à-dire que vous avez cru la voir. »« J'ai eu l'honneur de lui parler. »« L'honneur ? Je me trompe, monsieur le duc. »« Le malheur. »« Mais, mon cher lieutenant de la prévôté, ce n'est point la duchesse qui enlèvera le roi. »« Pardonnez-moi, monseigneur. »« Elle-même ? En personne, avec ses affidés, bien entendu. » « Et où se placera-t-elle pour présider à cet enlèvement ?»« À une fenêtre du prieuré des Jacobins, qui est, comme vous le savez, sur la route de Vincennes. »« Que diable me comptez-vous là ?»« La vérité, monseigneur, toutes les mesures sont prises pour que la litière soit arrêtée au moment où elle atteindra la façade du couvent. »« Et qui a pris cette mesure ?»« Hélas ! Achevez donc, que diable !» « Moi, monseigneur, » d'Épernon fit un bond en arrière. « Vous, dit-il ?» Poulain poussa un soupir. « Vous en êtes, vous qui dénoncez, » continua d'Épernon. « Monseigneur, dit Poulain, un bon serviteur du roi doit tout risquer pour son service. »« En effet, mordieu, vous risquez la corde. Je préfère la mort à l'avilissement ou à la mort du roi. Voilà pourquoi je suis venu. » « Ce sont de beaux sentiments, monsieur, et il vous faut de bien grandes raisons pour les avoir. J'ai pensé, monseigneur, que vous êtes l'ami du roi, et que vous ne me trahiriez point, et que vous tourneriez au profit de tous la révélation que je viens faire. » Le duc regarda longtemps Poulain et scruta profondément les linéaments de cette figure pâle. « Il doit y avoir autre chose encore, dit-il. La duchesse, toute résolue qu'elle soit, n'oserait pas tenter seule une pareille entreprise. »« Elle attend son frère, » répondit Nicolas Poulain. « Le duc Henri, » s'écria d'Épernon, avec la terreur qu'on éprouverait à l'approche du lion. « Non pas le duc Henri, monseigneur, le duc de Mayenne seulement. »« Ah !» fit d'Épernon, respirant. « Mais n'importe, il faut aviser à tous ces beaux projets. » « Sans doute, monseigneur, » fit Poulain, « et c'est pour cela que je me suis hâté. Si vous avez dit vrai, monsieur le lieutenant, vous serez récompensé. Pourquoi mentirais-je, monseigneur? Quel est mon intérêt, moi qui mange le pain du roi? Lui dois-je, oui ou non, mes services? J'irai donc jusqu'au roi, je vous en préviens si vous ne me croyez pas, et je mourrai s'il le faut pour prouver mon dire. » « Non, Parfandius, vous n'irez pas au roi. Entendez-vous, maître Nicolas, c'est à moi seul que vous aurez affaire. »« Soit, monseigneur, je n'ai dit cela que parce que vous paraissez hésiter. »« Non, je n'hésite pas. D'abord, ce sont 1000 écus que je vous dois. »« Monseigneur désire donc que je sois à lui seul. » « Oui, j'ai de l'émulation, du zèle, et je retiens le secret pour moi. Vous me le cédez, n'est-ce pas ?» « Oui, monseigneur, avec garantie que c'est un vrai secret. Oh, »« Avec toute garantie. 1000 écus vous vont donc, sans compter l'avenir. »« J'ai une famille, monseigneur. »« Eh bien, mais 1000 écus, Parfandius !»« Et si l'on savait en Lorraine que j'ai fait une pareille révélation, chaque parole que j'ai prononcée me coûterait une pinte de sang. Pauvre cher homme! Il faut donc qu'en cas de malheur, ma famille puisse vivre. Eh bien, voilà pourquoi j'accepte les 1000 écus. Oh diable, l'explication, et que m'importe à moi pour quel motif vous les acceptez, du moment où vous ne les refusez pas, les 1000 écus sont donc à vous. Merci, monseigneur. Et voyant le duc s'approcher d'un coffre où il plongea la main, Poulain s'avança derrière lui. Mais le duc se contenta de tirer du coffre un petit livre sur lequel il écrivit d'une gigantesque et effrayante écriture 3 000 livres à monsieur Nicolas Poulain, de sorte que l'on ne pouvait savoir s'il avait donné ces 3 000 livres ou s'il les devait. « C'est comme si vous les teniez, » dit-il. Poulain, qui avait avancé la main et la jambe, retira à sa jambe et sa main, ce qui le fit saluer. « Ainsi, c'est convenu, » dit le duc. « Qu'y a-t-il de convenu, monseigneur? Vous continuerez à m'instruire. » Poulain hésita. C'était un métier d'espion qu'on lui imposait. « Eh bien, dit le duc, ce suprême dévouement est-il déjà évanoui ?»« Non, monseigneur. Je puis donc compter sur vous. » Poulain fit un effort. « Vous pouvez y compter, dit-il. Et moi seul, je sais tout cela. Vous seul, oui, monseigneur. Allez, mon ami, allez, parfendus que monsieur de Mayenne se tienne bien. » Il prononça ces mots en soulevant la tapisserie pour donner passage à Poulain. Puis, lorsqu'il eut vu celui-ci traverser l'antichambre et disparaître, il repassa vivement chez le roi. Le roi, fatigué d'avoir joué avec ses chiens, jouait au bilboquet. D'Épernon prit un air affairé et soucieux que le roi, préoccupé d'une si importante besogne, ne remarqua même point. Cependant, comme le duc gardait un silence obstiné, le roi leva la tête et le regarda un instant. « Eh bien, dit-il, qu'avons-nous encore, la Valette? Voyons, es-tu mort ?»« Plutôt au ciel, sire, » répondit d'Épernon, « je ne verrai pas ce que je vois. »« Quoi, mon bilboquet ?»« Sire, dans les grands périls, un sujet peut s'alarmer de la sécurité de son maître. »« Encore des périls, le diable noir t'emporte, duc !» Et, avec une dextérité remarquable, le roi enfila la boule d'ivoire par le petit bout de son bilboquet. « Mais vous ignorez donc ce qui se passe ?» lui demanda le duc. « Ma foi, peut-être, dit le roi. Vos plus cruels ennemis vous entourent en ce moment, sire. »« Bah, qui donc ? La duchesse de Montpensier, d'abord. »« Ah oui, c'est vrai, elle regardait hier rouer Salcèdre. Comme votre majesté dit cela !» Qu'est-ce que cela me fait à moi? Vous saviez donc? Et tu vois bien que je le savais, puisque je te le dis. Mais que monsieur de Mayenne arriva, le saviez-vous aussi? Depuis hier soir. Et quoi, ce secret? Fit le duc avec une désagréable surprise. Est-ce qu'il y a des secrets pour le roi, mon cher? Dit négligemment Henri. Mais qui a pu vous instruire? Ne sais-tu pas que nous autres princes, nous avons des révélations? Ou une police? « C'est la même chose. »« Ah, votre majesté a sa police et n'en dit rien, » reprit d'Épernon, piqué. « Parbleu, qui donc m'aimera si je ne m'aime ? Vous me faites injure, sire. Si tu es ailé, mon cher Lavalette, ce qui est une grande qualité, tu es lent, ce qui est un grand défaut. Ta nouvelle eût été très bonne hier à 4 heures, mais aujourd'hui... »« Eh bien, sire, aujourd'hui, elle arrive un peu tard, conviens-en. » C'est encore trop tôt, sire, puisque je ne vous trouve pas disposé à m'entendre, dit d'Épernon. Moi, il y a 1 heure que je t'écoute. Quoi, vous êtes menacé, attaqué, l'on vous dresse des embûches et vous ne remuez pas? Pourquoi faire, puisque tu m'as donné une garde, et qu'hier tu as prétendu que mon immortalité était assurée? Tu fronces les sourcils, ah ça, mais tes 45 sont-ils retournés en Gascogne ou ne valent-ils plus rien? En est-il de ces messieurs comme des mulets? Le jour où on les essaie, c'est tout feu, les a-t-on achetés, ils reculent? C'est bien, votre majesté verra ce qu'ils sont. Je n'en serai pas fâché, est-ce bientôt, duc, que je verrai cela? Plutôt peut-être que vous ne pensez, sire. Bon, tu vas me faire peur. Vous verrez, sire. À propos, quand allez-vous à la campagne? Au bois, oui. Samedi. Dans 3 jours, alors. Dans 3 jours. Il suffit, sire. D'Épernon salua le roi et sortit. Dans l'antichambre, il s'aperçut qu'il avait oublié de relever M. Pertinax de sa faction, mais M. de Pertinax s'était relevé lui-même.